voici arrivé au 50e jour. 50e jour depuis Pâques. 7 fois 7, 49 plus 1, c'est la plénitude. La plénitude de Pâques. Tout au long de ce temps pascal, de ces 50 jours, vous avez remarqué que nous avons très souvent entendu les récits des actes des apôtres. Aussi bien le dimanche qu'en semaine, on avait plus de temps pour méditer, recevoir tous les passages successifs. Nous avons contemplé ensemble les actes des apôtres. Et sans doute avez-vous remarqué que les actes des apôtres ont commencé très petitement dans le Cénacle, une petite gagne d'hommes et de femmes, et que nous sommes allés jusqu'à Rome. Et dans le texte que la liturgie nous faisait lire hier, nous étions avec Paul à Rome. Et Rome, c'est la capitale de l'Empire romain. Et dans la culture gréco-romaine de l'époque, c'était vraiment le centre du monde. Comme si l'évangile qui était parti de Jérusalem a atteint, on pourrait dire, le monde entier. C'est cela que saint Luc nous fait comprendre. Et en lisant et en méditant tous ces passages, on peut se poser la question, mais comment cette petite poignée d'apôtres, de disciples, de saintes femmes, comment est-ce qu'ils ont réussi à traverser toutes les frontières qu'il fallait traverser? Comment est-ce qu'ils ont fait pour ne pas se laisser décourager? Comment ils ont fait pour dépasser un nombre incalculable d'épreuves? Et tout a bien mal commencé avec la lapidation d'Étienne à Jérusalem même. Ça commençait très mal. Pourtant, de fait, l'évangile a poursuivi sa course. Rappelez-vous Philippe qui arrive en Samarie, le diacre Philippe, et il y a une grande joie dans la ville. Pensez à Pierre qui évangélise toute la région côtière autour de Tel Aviv, disons, pour prendre un terme de la géographie d'aujourd'hui, avec une force étonnante. Et le même Pierre qui, pour la première fois, entre chez un non-juif, et donc l'évangile qui dépasse une frontière colossale, un mur, et entre dans le monde païen. Philippe, Pierre, et puis d'autres chrétiens qui vont porter l'évangile en Syrie, l'actuelle et douloureuse Syrie, et ainsi les frontières se traversent. L'évangile va pénétrer l'Asie mineure, c'est-à-dire l'actuelle Turquie, puis passe en Europe, arrive à Philippe, la ville de Philippe, et puis irrigue la Grèce et arrive à Rome. Quelle force! En quelques années, il n'y avait pas le métro, il n'y avait pas le train, il n'y avait pas l'avion et tout le reste. Les chrétiens avaient mille raisons de s'arrêter, mille raisons. Partout, la persécution et le rejet se sont levés contre eux. Déjà à Jérusalem, les autorités juives elles-mêmes. À Chypre, c'est un magicien qui fait la guerre à Paul. À Antioche de Pisidie, sont surtout des femmes de haute naissance qui luttent pour chasser Paul et Barnabé. À Athènes, ce sont les intellectuels païens qui dénigrent Paul. À Éphèse, ce sont les commerçants, figurez-vous, qui se sentent menacés et s'élèvent contre les chrétiens. Et ainsi de suite. Que de persécutions, que d'épreuves traversées, que d'hostilités traversées. Puis si on regarde la communauté elle-même, combien de fois les chrétiens auraient pu s'entre-détruire, s'auto-détruire par leur chicane? Parce qu'il y en avait parmi eux certains qui étaient encore restés au baptême de Jean, ça n'allait pas. Et puis surtout, il y avait ceux qui tenaient à ce que les païens convertis observent toute la loi juive, puis d'autres qui n'étaient pas d'accord, c'était pas simple. Il y avait des frères qui décevaient, comme Jean surnommé Marc, a pris le large. Il y avait des désaccords entre les leaders, entre Pierre et Paul, pas n'importe qui. Des différences de tempérament entre Paul l'hyper fougueux et Barnabé l'artisan de paix. Il y avait des désaccords sur la route, est-ce qu'on va à droite, est-ce qu'on va à gauche? Et ils ont traversé tout ça. Et surtout, combien de fois la faiblesse, la petitesse de la communauté pouvait les mener à se sentir incapables, à se sentir inaptes pour affronter une telle mission, porter l'évangile dans le monde entier quand on est une petite gagne, pensez-vous? Et puis leur sort n'était pas glorieux. Et combien ont mal fini? Étienne le premier, sous les pierres, lapidé aux portes de Jérusalem. Jacques, qu'on a jeté par la, au-dessus de la muraille. Pierre, crucifié. Paul, dont on a coupé la tête. D'où leur venait cette énergie? D'où leur venait cette capacité de résilience, pour prendre des mots à la mode? D'où ça leur vient? Ils avaient toutes les raisons de démissionner, de se décourager, de baisser les bras, d'abandonner la partie. Et pourtant, ils continuaient. Ils reprenaient la route. Ils se réconciliaient. Ils trouvaient un terrain d'entente au niveau doctrinal. Bref, ils ressuscitaient tout le temps. Ils ressuscitaient. Combien de fois ils sont ressuscités? Puis la mort, les pierres, la croix, le glaive, tout cela, ils le voyaient comme des signes du triomphe de l'Évangile. Parce que ce qui mourait ne mourait pas dans la haine ou dans la rancune ou dans la vengeance. Il mourait dans le pardon et la bénédiction. Ça, c'est la victoire sur la mort. C'est la victoire sur la haine. D'où leur venait cette force intérieure, cette joie que rien ne pouvait éteindre. Eh bien, la réponse, nous l'avons aujourd'hui. Nous l'avons dans les premières pages des Actes des Apôtres que nous venons d'entendre tout à l'heure. La réponse, c'est la Pentecôte. Ou même on pourrait dire, ce sont les Pentecôtes. Ces hommes, ces femmes, du monde ordinaire comme nous, avaient fait place en eux à quelqu'un qui leur donnait comme un ressort intérieur. Ils mouraient, puis ils ressuscitaient. Combien de fois vous recevrez une force, celle du Saint-Esprit, qui descendra sur vous et vous serez mes témoins, avait dit Jésus. Et la parole de Dieu, elle s'accomplit, elle est vraie, elle porte son fruit, puis elle transforme nos vies. Une force, oui, un ressort, une énergie de résurrection. Voilà ce que nous donne l'Esprit Saint. Vous voulez avoir une idée de la puissance de l'Esprit Saint? Alors écoutez ce que dit saint Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 8. Si l'Esprit, l'Esprit Saint, de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. L'Esprit Saint est l'artisan, l'ouvrier de la résurrection du Christ. La résurrection, c'est la puissance de l'Esprit Saint qui se déploie dans l'humanité. D'abord dans celle de Jésus, et maintenant dans la nôtre. La Pentecôte, c'est la résurrection qui entre dans les fibres de notre humanité, de chacun et du corps que nous faisons ensemble. On ne reçoit jamais l'Esprit Saint pour soi tout seul. On le reçoit toujours dans un corps, avec d'autres et pour les autres. C'est la résurrection du Christ, la résurrection avec le Christ, résurrection qui vient du Père et nous conduit au Père, qui rentre dans toutes les fibres de ton humanité et de notre humanité. Pour que ce soit bien clair, le Seigneur nous a donné un indice très sûr. Regardez bien. Quel jour le Seigneur a-t-il choisi pour souffler en nous ce grand souffle de vie? Il n'a pas choisi la fête, mettons, de Rosh Hashanah ou la fête d'automne. Il a choisi le jour de Pentecôte, donc la fête juive de Pentecôte. Avant d'être une fête chrétienne, la fête de Pentecôte est d'abord et reste une fête juive extrêmement importante. Or, c'est quoi la Pentecôte dans la tradition juive? Son sens premier est le suivant. À Pâques, on offrait la première gerbe de la moisson. Merci Seigneur pour le début de la moisson, là, la toute première gerbe, je viens te l'offrir. Et à Pentecôte, on rend des grâces pour la fin de la moisson qui est accomplie. On offrait comme toute la moisson. Voyez, la fête de Pentecôte, c'était comme la moisson accomplie. C'est une grande joie. Eh bien, regardez bien. La première gerbe, c'est la résurrection de Jésus. Et la moisson, c'est nous. C'est nous tous qui vivons de la résurrection. Pentecôte, c'est l'accomplissement de la Pâque de Jésus dans cette belle moisson que nous sommes. Elle est belle, la moisson que je vois aujourd'hui. Elle est belle. Maintenant, regardez le nouveau sens que cette fête avait peu à peu acquise dans la tradition juive, surtout dans l'école des pharisiens. Pâques était considérée, était perçue comme la fête de la sortie d'Égypte. On bénit le Seigneur parce qu'on était en Égypte opprimé et qu'il nous a libérés. Et la Pentecôte, 50 jours plus tard, c'est le jour où on fait mémoire, on rend grâce pour l'alliance qui a suivi la libération de l'Égypte. L'alliance est le don de la loi, grâce auquel on pourra vivre tout le temps de la grâce de cette libération de l'Égypte. On pourra vivre continuellement dans la vérité, la liberté de Dieu. Nous pourrons vivre libres grâce au don de la loi. On pourra vivre de Dieu, rester dans cette liberté. De nouveau, la Pentecôte, c'est l'accomplissement, c'est le déploiement de la grâce de Pâques. C'est ce jour-là que le Seigneur a choisi pour l'effusion de l'Esprit-Saint, pour que ce soit bien clair que la Pentecôte, ce n'est pas une autre chose que Pâques qui n'a pas de rapport. Non, c'est le déploiement en nous de la grâce de Pâques. Et déjà le jour de Pâques, on commençait à sentir ça par ce premier souffle très discret de Jésus. C'est Jésus qui souffle discrètement sur ses apôtres. Et à Pentecôte, c'est l'accomplissement de ce geste, c'est la plénitude. Jésus reçoit du Père l'Esprit-Saint et il le diffuse et le donne sur toute l'humanité. Donc la souffrance imprégnée d'amour, la croix qui devient glorieuse, la mort qui est vaincue, le triomphe aussi humble que puissant de la résurrection, c'est pas seulement pour Jésus de Nazareth, c'est pour nous tous, c'est pour tous les humains qui croient en Jésus, grâce à l'Esprit-Saint. Et c'est cela qui faisait que les premiers chrétiens avaient cette force, ce ressort intérieur, parce qu'ils avaient dit oui à l'Esprit-Saint. Ce n'était pas une idée, c'était du concret. Et ils traversaient les frontières, entraient dans d'autres cultures, dépassaient les épreuves, se réconciliaient. L'Église, c'est le peuple de la résurrection. Pas comme une idée, ou un slogan, ou une théorie, mais une réalité, une surprise continuelle en nous. C'est cela l'Église. Alors, frères et sœurs, et je conclue, à la lumière de cette fête de Pentecôte et de ce qu'a vécu la première communauté chrétienne, comment allons-nous regarder la faiblesse, la fragilité, les problèmes de l'Église en Occident aujourd'hui? Comment? C'est simple. Si l'Esprit n'est pas notre vie, si on n'a pas fait place à l'Esprit-Saint en nous, ça reste une idée, eh bien nous allons nous décourager. Et la foi va s'éteindre ou bien se rigidifier comme une momie. Mais si l'Esprit est notre vie, si nous accueillons la personne de l'Esprit-Saint, la situation actuelle, bien sûr, nous préoccupe, bien sûr, nous éprouve, nous inquiète. Mais elle est certainement le lieu où se manifeste et se manifestera la puissance de la résurrection. Et nous tous qui sommes ici, nous disons oui à l'Esprit Saint, nous traverserons des frontières. Nous porterons l'Évangile dans la nouvelle culture d'aujourd'hui. Nous dépasserons nos chicanes. Nous serons capables d'aller de l'avant. Nous sortirons pour porter l'Évangile. Voilà ce que nous demandons ensemble, si vous voulez, les uns pour les autres, dans cette fête de Pentecôte. Vous savez, il y a dans toute l'année liturgique un jour de grâce toute particulière et un moment de grâce toute particulière. C'est la communion, le jour de Pentecôte. La communion. Recevoir le corps du Christ le jour de Pentecôte et permettre à la communion de déployer en nous et entre nous et pour nous ensemble comme peuple toute sa puissance. Alors préparons nos cœurs à vivre cette communion du jour de Pentecôte, à recevoir une nouvelle effusion de l'Esprit Saint.